Bonjour Michel Maillard.
Bonjour.
Nous sommes à Tramail, vous êtes maire de cette ville et c'est le cinquième mandat que vous réalisez. Je vous propose de situer géographiquement le bourg pour que l'on comprenne mieux la vie et l'activité qui s'y déroule.
Alors Tramail, c'est tout simplement au centre du monde que l'on peut positionner à mi-chemin entre Lyon et Dijon. Nous sommes, on va dire, sud-Bourgogne, puisque nous sommes frontaliers aussi avec la région Rhône-Alpes-Haut-Rhin. Nous sommes à proximité de Cluny, 17 km, et de Mâcon, 25 km. C'est une commune rurale qui se suffit presque à elle-même.
Nous sommes dans le Haut-Clunisois.
Alors nous sommes effectivement dans le Haut-Clunisois. Je préférerais presque l'ancienne dénomination de notre communauté de communes qui était entre Mâconnais et Charolais. C'est une commune qui progresse un petit peu en termes de démographie. Nous avons dépassé les 1000 habitants, maintenant nous sommes à 1045 habitants. Et donc j'en suis le maire depuis 1995, ce qui me permet d'avoir un certain recul sur des actions qui ont été entreprises durant ces dernières décennies.
Et si on veut donc rattacher Tramail à une tradition, à une histoire, quel repère peut-on prendre ?
On va très clairement dire que c'est une commune rurale. Si on remonte dans le temps, on va bien entendu trouver de nombreux agriculteurs et c'était l'économie principale de cette commune. Toutefois, c'est aussi une commune qui a été chef-lieu de canton. Elle ne l'est plus depuis des modifications récentes, mais elle a été chef-lieu de canton et de ce fait, elle a joué aussi un rôle important sur l'activité commerciale locale. Je dirais que, en général, les nouveaux arrivants à Tramail sont surpris de constater cette offre commerciale et de services pour une commune d'une taille de 1000 habitants. Nous présentons effectivement pratiquement tous les commerces de proximité. Nous avons très clairement ce qu'il nous faut. En période Covid, c'est un avantage. Nous avons aussi des services de type poste, de type banque, de type assurance, mais surtout des services médicaux. Nous avons la chance d'avoir un hôpital qui en fait est essentiellement un EHPAD d'une centaine de lits, auquel est adossée une maison de santé pluridisciplinaire dans laquelle on va trouver un cabinet de 4 médecins, on va trouver un cabinet infirmier, on va trouver un cabinet dentiste, on va trouver l'ADMR, on va trouver différentes activités avec par exemple des activités ponctuelles d'orthophonie ou autres.
Quand je parle d'histoire, je le prends au sens large, en ce sens que, est-ce qu'il y a des sites qui montrent vraiment l'ancienneté du village ? Est-ce qu'il y a un clocher, un lavoir ou bien d'autres lieux comme ça, révélateurs, propres à cette ville ?
Tramail est en fait situé sur un promontoire. Quand on regarde bien géographiquement, nous sommes en sommet de plusieurs vallées. Et de ce fait, historiquement, Tramail était un lieu de contrôle des circulations sur ces vallées. C'est pour cela que nous avions un châtelain avec son château, le château de La Rolle initialement. Et puis, par la suite, ce château s'est déplacé, le châtelain a déplacé le château et l'a ramené un peu plus dans le bourg. Et il y a eu, je dirais, une modification de ce bourg qui s'est étendu autour du nouveau château, il y a de cela quand même quelques siècles. Quand on regarde bien, donc, nous avons essentiellement deux monuments qui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le clocher de l'église et le château de Tramail. Alors c'est surprenant parce que ce n'est pas l'église qui est classée, mais simplement le clocher, parce que l'église a subi une profonde modification, il y a de cela à peu près deux siècles. Elle a eu un changement complet d'orientation. L'église, à l'époque, était un peu trop petite vis-à-vis du nombre d'habitants qui montaient quand même sur ce bourg, puisqu'il faut l'appeler comme cela. Et donc, il a été nécessaire de l'agrandir. Et pour l'agrandir, eh bien, on a carrément changé l'entrée de cette église, qui maintenant se fait sous le clocher, pour ensuite rentrer dans la nef, alors qu'initialement, on rentrait par la nef pour aller vers le clocher. Donc, ça a été une réorientation complète de cette église qui a été faite il y a de cela à peu près deux siècles. Et c'est pour cela que seul le clocher est un monument historique et non pas l'ensemble de l'église.
Oui, cela induit-il un intérêt touristique tout particulier ?
Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à venir à Tramail, parce que on va quitter, par exemple, des lieux type plaine, à peu près, hein, on va dire, en particulier si on vient de la Bresse, pour se retrouver sur des monts, quelque chose de très vallonné, avec une agriculture présente et une agriculture traditionnelle présente, c'est-à-dire qu'on a des haies, des bocages et de nombreux cheminements. Ça fait une richesse touristique assez claire de notre région. Au niveau de notre communauté de communes, nous touchons la commune de Saint-Point avec un aménagement touristique, le lac de Saint-Point, qui est un lac artificiel, mais qui néanmoins attire beaucoup de monde, en particulier en période estivale. Et nous avons donc comme cela un petit havre de paix pour les villégiatures, pour les promeneurs. Et on peut dire que effectivement, c'est un coin sympathique, d'autant plus que, je me permets de le rappeler, nous avons tous les services, tous les commerces. Donc les personnes qui viennent dans notre secteur peuvent sans aucun problème rester plusieurs journées, faire plusieurs nuitées pour découvrir notre région.
Est-ce que le nom de Lamartine et les sites lamartiniens qui sont proches, à savoir Milly, Saint-Point, sont une attraction et que Tramail en bénéficie ?
Alors bien sûr que Lamartine a eu son incidence sur Tramail. Alors tout particulièrement Saint-Point, je me permets de rappeler que c'est là que nous avons le tombeau de Lamartine, donc on est véritablement voisins avec lui. Et puis il venait se promener à Tramail. Et il y a de nombreux écrits à ce sujet, en particulier il avait des rencontres avec le châtelain de Tramail de l'époque, et donc il y a effectivement une incidence particulière. Donc on ne peut pas nier, puisque nous sommes presque, je dirais, sur le trajet entre Saint-Point et Milly, donc on ne peut pas nier l'importance de la présence lamartinienne dans notre secteur.
Pour parler de la situation géopolitique au sens large, la particularité de Tramail, c'est que vous êtes dans une procédure de développement durable, que vous avez fait ce choix et qui donne maintenant une nouvelle identité, une nouvelle originalité à votre bourg.
Alors il y a effectivement, pas tout à fait une vingtaine d'années, mais pas loin maintenant, un engagement au niveau de la commune, de la municipalité, un engagement, on va dire, environnemental. Ça a été plusieurs actions qui ont mis à bout, ont permis à notre commune d'avoir quelques reconnaissances, quelques récompenses nationales, voire européennes, sur cette thématique. Nous sommes engagés dans cette procédure parce que nous pensons que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans le développement durable, dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, pour au moins montrer qu'il est possible de faire des choses et que, économiquement, nous n'en souffrons pas, bien au contraire. Alors, je vais simplement donner rapidement un petit résultat. Nous sommes, hélas, je dis bien hélas, la seule municipalité de France de plus de 1000 habitants à pouvoir affirmer que nous ne consommons que de l'énergie renouvelable pour nos bâtiments publics, mairies, salles des fêtes, bibliothèques, écoles, etc., et pour notre éclairage public. Nous espérons que d'autres collectivités vont pouvoir nous rejoindre dans ce club, qui est pour l'instant beaucoup trop fermé. Et nous espérons aussi arriver très prochainement à avoir suffisamment d'installations photovoltaïques sur nos propres bâtiments ou nos espaces publics pour pouvoir affirmer que nous produisons l'équivalent en électricité de ce que nous consommons. Et ça, j'y tiens beaucoup. Nous sommes engagés dans ce que l'on appelle une démarche de territoire à énergie positive. L'objectif est qu'à l'horizon 2050, on a encore de la marge, mais ça vient vite, qu'à l'horizon 2050, on puisse dire que sur notre commune, nous ne consommons que l'énergie renouvelable produite par notre commune. C'est ça un territoire à énergie positive. Alors, dans ce cadre, il y a plusieurs champs d'action. Le premier champ d'action, le plus important, c'est déjà la réduction de la consommation. Donc, essayer de mettre en place des actions qui permettent de diminuer notre consommation énergétique. Je vais citer deux exemples. Nous avons travaillé sur l'éclairage public et en moins de 10 ans, grâce à des procédures type extinction de l'éclairage public, mais aussi relamping, nous avons divisé par 4 notre consommation d'énergie. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous avons encore d'autres choses à faire sur l'éclairage public. Donc j'espère qu'on va pouvoir diviser par 6 par rapport à ce que nous avions il y a une dizaine d'années. Et puis, autre action sur la réduction de consommation, c'est bien entendu les bâtiments. Les rénovations que nous menons ne sont pas de simples coups de peinture ou changements de portes, fenêtres ou autres. Nous essayons de faire des rénovations que l'on appelle globales, c'est-à-dire des rénovations où nous allons toucher pratiquement tous les corps de métier et reprendre pratiquement complètement le bâtiment pour pouvoir le rendre non pas compatible avec les normes actuelles de 2020, mais plutôt avec de futures normes 2030 voire 2050. Alors en rénovation, il est très difficile de faire des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui ne consommeraient pratiquement pas d'énergie. Mais néanmoins, nous tendons vers cet objectif. Nous essayons de réduire au maximum nos consommations d'énergie dans ce type de bâtiment. Un exemple, actuellement, nous sommes en train de faire une rénovation lourde sur notre ancienne gendarmerie. Nous allons y créer 9 logements, qui sont des logements, alors on peut dire à caractère social, puisque ce sont des loyers qui vont être inférieurs à 6 euros le mètre carré par mois. Donc nous touchons beaucoup de personnes avec ce type de loyer, bien entendu. Et puis, ces logements qui vont être mis en service normalement début d'année 2021, eh bien, ces logements devraient avoir une charge de chauffage annuelle inférieure à un loyer. Et ça, nous y tenons beaucoup. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur l'isolation, sur l'utilisation de matériaux biosourcés, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, chaufferie à granuler, et puis production d'électricité par panneaux photovoltaïques. Voilà donc un de nos derniers exemples.
En ce qui concerne la question scolaire, quelles tranches d'âge sont accueillies dans la commune de Tramaille ?
Alors là, donc, nous nous retrouvons dans l'école élémentaire classique, c'est-à-dire que nous allons avoir la maternelle jusqu'au CM2 dans notre école. Effectivement, c'est une particularité parce que quand j'ai été élu en 1995, mon prédécesseur avait déjà un projet de regroupement scolaire entre nos deux écoles. À l'époque, nous avions deux écoles, une école maternelle située dans le bas du bourg et une école primaire, une école élémentaire située dans le haut du bourg. Et donc, il y avait un projet de rassemblement. Mais ce projet n'a pu se faire pour des raisons financières, parce que c'est quelque chose de relativement lourd à mener. Et je reconnais que de mon côté, ça a toujours été un objectif au cours de mes mandats, mais il fallait pouvoir gérer financièrement ce dossier qui est très lourd. On a pu le faire dans le dernier mandat. Ça a été une opération qui, au total, nous a coûté 2 600 000 euros. Sur ces 2 600 000 euros, nous avons obtenu, on va dire, à peu près 700 000 euros de subventions. Nous avions, heureusement, mis un peu de côté de l'argent, on va dire 600 000 euros. Et donc, nous avons emprunté à peu près 900 000 euros pour mener à bien cette opération. L'emprunt va être remboursé, bien entendu, progressivement au fil des annuités. Mais nous nous sommes arrangés malgré tout pour que cette opération soit indolore au niveau du contribuable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes locales pour pouvoir mener à bien ce projet. L'école ne va pas coûter plus à nos contribuables. Par contre, ce que je puis dire, c'est que dans cette opération, à nouveau, nous avons essayé de faire une rénovation exemplaire de l'existant, plus, puisqu'on a construit sur le même site tout ce qu'il fallait, plus des bâtiments exemplaires. Et donc, les bâtiments neufs, c'est-à-dire l'école maternelle, la partie école maternelle et la partie garderie périscolaire sont des bâtiments que l'on peut considérer à énergie positive. La rénovation qui concerne la partie élémentaire est une rénovation aussi très lourde que nous avons essayé de mener de façon exemplaire, avec aussi des matériaux biosourcés et autres. Nous avons augmenté par 2,5 la surface affectée à la scolarité. Et par contre, nous divisons par 5 la consommation d'énergie associée à la scolarité, en prenant donc cet exemple. En fait, on prend le temps de la réflexion, on ne fait pas des petites rénovations à minima, ce que j'aurais pu faire au cours de mes 4 mandats précédents, j'ai bien attendu d'avoir les moyens nécessaires pour faire une grosse rénovation, mais une rénovation qui devrait nous permettre maintenant de durer dans le temps et d'avoir quelque chose qui soit opérationnel, y compris encore en 2050, voire plus loin.
Michel Maillat, donc, vous êtes maire de Tramail, et Tramail appartient à une communauté de communes. J'aimerais savoir ce qu'elle vous apporte et quelle est-elle ?
Notre communauté de communes est la communauté de communes Saint-Cyr-Mer-Boîtier, qui a été obtenue en fusionnant 2 petites communautés de communes, la communauté de communes du Mâconnais-Charolais, à laquelle nous appartenions, et la communauté de communes de Matour et sa région. Et nous nous retrouvons dans une communauté de communes maintenant qui fait à peu près 8000 habitants. C'est la plus petite communauté de communes de notre département de Saône-et-Loire. Néanmoins, c'est une communauté de communes qui est extrêmement dynamique, c'est-à-dire que tout en étant petit, ça nous permet d'être en proximité des personnes et des élus. Lorsque nous faisons des réunions communautaires, nous ne sommes pas à des réunions de plus d'une centaine de personnes, on est plutôt de l'ordre de moins d'une trentaine, et ça nous permet d'avoir des échanges directs et francs entre nous et d'avancer sur l'ensemble des sujets tous ensemble. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à ce niveau, c'est d'avoir une communauté de communes à taille humaine qui nous permette d'être très réactifs en définitive sur de nombreux sujets. On peut aussi continuer de parler de développement durable et dire que, par exemple, cette communauté de communes a mis en place une opération programmée d'amélioration d'habitat pour que les habitants puissent rénover leur appartement et obtenir des logements qui soient plus confortables avec des effets énergétiques moins importants. Donc, on a des opérations de ce style qui sont menées au sein de notre communauté de communes. La communauté de communes est en train de créer actuellement un regroupement scolaire pour un ensemble de quelques communes. Donc, nous essayons de porter des projets toujours tournés vers l'avenir au niveau de cette communauté de communes. Et c'est pour nous extrêmement important parce que nous nous retrouvons dans une communauté de communes à taille humaine, mais aussi sans effet, entre guillemets, urbain. C'est-à-dire que nous n'avons pas une grosse commune urbaine qui écrase les autres. Nous sommes des communes de taille équivalente. La plus grosse étant Matour à 1100 habitants. Donc nous sommes avec des communes de taille équivalente. Et donc les échanges sont largement facilités entre élus.
Michel Maillat, j'aimerais aussi qu'on parle de l'aspect associatif et de la dynamique que ça apporte.
Au niveau de notre commune, on a de très nombreuses associations, mais je pense quand même que nous avons un rôle fédérateur extrêmement important. Je vais citer simplement 2 exemples. Nous avons un club sportif qui fait 150 adhérents et un club de danse qui fait 250 adhérents. Et ça, c'est extrêmement important au niveau économique. Pendant que les enfants font les activités, eh bien, les parents, essentiellement les mamans, vont faire les courses, vont aller voir le coiffeur, vont, etc., sur la commune. Donc, ça contribue au développement économique très nettement de notre commune. Et ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième point, nous avons, en 2016, accepté de faire un accueil de migrants sur notre commune. Il nous a fallu 8 mois, pratiquement, pour enfin avoir 2 familles qui sont venues dans notre commune. Tout d'abord, une famille afghane, puis ensuite une famille syrienne. Les 2 familles, ça nous a apporté quand même dans nos écoles 7 enfants. Mais surtout, premièrement, ces familles sont parfaitement intégrées dans notre commune. Elles ne veulent pas quitter notre commune. Les enfants sont à l'école complètement à l'aise avec leurs copains, copines, etc. Ça marche très très bien. Surtout, nous avions eu à l'époque, en 2015-2016, un collectif qui s'était monté. Près d'une 100aine de personnes avaient accepté de donner de son temps pour faire cet accueil de migrants. Il y avait eu des actions pour les accompagner sur la mobilité, pour les accompagner sur le médical, sur l'emploi. Je crois que nous avons tous gagné dans cet accueil de migrants. Ça nous a aussi ouvert les yeux sur les difficultés qu'hélas des personnes rencontrent de par le monde.
Merci Michel Maillat.